Bonsoir. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkha est bien détenue en Iran et le régime de Téhéran ne donne aucune explication. L'anthropologue est-elle victime d'enjeux géopolitiques qui la dépassent? Nous tenterons d'y voir plus clair avec Christian Chéneau. Bastia et le Cap Corse se sont retrouvés sous un déluge de pluie ce midi. Une tornade arrivée de la mer a balayé le port de Toga. Les dégâts, heureusement, ne sont que matériels. Dans la Marne, en revanche, un accident à un passage à niveau a fait 4 morts ce matin. Une femme et 3 enfants dont la voiture s'est retrouvée sur le passage d'un TER pour une raison qui reste à déterminer. Et bientôt, la 5G sur votre téléphone portable. L'ARCEP, le gendarme des télécoms, dévoile son cahier des charges pour que les opérateurs puissent proposer dès l'année prochaine un débit encore plus rapide. À suivre, le journal du Tour. Le vainqueur du jour s'appelle Wout Van Aert. Il est belge, mais Julian Alaphilippe reste en jaune. Le téléphone sonne ce soir, Yves de Caen.
Retour sur la mesure choc annoncée mardi dernier par le gouvernement, une taxe sur les billets d'avion au départ de France, avec également une diminution de 2 centimes par litre du remboursement du gazole pour les transporteurs, pour les professionnels de ces deux secteurs. C'est un non-sens économique et environnemental, c'est ce dont nous débattrons tout à l'heure. Vos questions et vos remarques, bien sûr, au 01 45 24 7000.
France Inter. Le ministère français des Affaires étrangères l'a confirmé ce matin. La chercheuse de Sciences Po Paris, Fariba Adelkha, est bien prisonnière en Iran. Le Quai d'Orsay n'a pas précisé depuis quand. Selon certaines sources, l'anthropologue franco-iranienne de 60 ans aurait été arrêtée il y a environ 3 semaines. La France demande à Téhéran de faire toute la lumière sur sa situation. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir.
Que sait-on de cette arrestation?
Écoutez, Fariba Adelkha aurait été arrêtée le 5 juin dernier à son domicile de Téhéran par les gardiens de la Révolution. Elle serait aujourd'hui détenue à la prison d'Evin. Même si son arrestation circulait sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, le Quai d'Orsay ne l'a confirmé qu'aujourd'hui. Selon un universitaire proche de Fariba Adelkha, les autorités françaises ont été informées très rapidement de son interpellation, mais elles ont sans doute voulu rester discrètes pour ne pas envenimer l'affaire et trouver une solution en coulisses. Et apparemment, ça n'a pas fonctionné.
Réaction ce soir du président de la République Emmanuel Macron en visite en Serbie. Il déplore de n'avoir obtenu aucune explication de Téhéran.
Ce qui s'est passé me préoccupe beaucoup. Ça ne s'est pas passé aujourd'hui ou ces derniers jours. Nous sommes informés depuis plusieurs jours. Et j'ai eu l'occasion d'exprimer non seulement mon désaccord, mais ma volonté de clarification au président Rouhani. Et donc, j'attends les retours et les clarifications sur ce sujet. Mais il est évident que la France protège ses ressortissants et y est extrêmement attachée. Aucune explication à ce stade ne m'a été fournie permettant d'expliquer de manière valable quelque incarcération que ce soit. Et donc, le dialogue sur ce sujet se poursuivra.
Propos recueillis par Élise Delève. Christian Chéneau, Fariba Adelkha s'est rendue en Iran avec le feu vert des autorités. Elle travaille sur ce pays depuis plus de 20 ans.
Oui, c'est une spécialiste reconnue des affaires iraniennes, notamment du mouvement féministe. Un de ses collègues m'expliquait qu'elle avait bien évidemment reçu l'autorisation des autorités iraniennes pour ses recherches, que ce n'était pas une militante anti-régime et donc qu'il a été très surpris d'apprendre son arrestation.
Alors, cette arrestation survient dans un contexte particulièrement tendu entre l'Iran et les États-Unis et alors que la France, elle, tente de se poser en médiatrice.
Oui, cette arrestation coïncide avec la première visite du conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron à Téhéran au mois de juin dernier. La chercheuse a-t-elle été la victime collatérale de la lutte d'influence entre les modérés et les durs du régime? Ces derniers ont le vent en poupe. Ils estiment que rien de bon n'est sorti de l'accord nucléaire et qu'il est temps que l'Iran montre les dents. Et dans cette perspective, l'arrestation de l'universitaire franco-iranienne serait le signe d'un raidissement du régime et surtout un moyen d'embarrasser le président Rouhani qui cherche à négocier avec les Occidentaux.
Merci Christian Chéneau de la rédaction internationale.
En Corse, les images rares d'une trombe marine qui a fait des dégâts.
Les images sont impressionnantes. Un tourbillon au-dessus de la mer qui s'abat en début d'après-midi sur le port de Toga, au nord de Bastia. Il s'agit, selon Météo France, d'une trombe marine qui a dégénéré en tornade, accompagnée d'un déluge de pluie. Alexandre Sanguinetti s'est rendu sur place après son passage.
Les stigmates de cette tempête sont visibles partout. Parkings inondés, voitures endommagées, panneaux et arbres arrachés. Plaisanciers et cafetiers ne parlent que de ça.
La voiture, on devait passer par-dessus. Elle est passée en face de la digue. Elle est venue de la mer, elle a sauté la digue, elle est rentrée dans le port, le bateau se sont levés. C'était l'apocalypse. Après, moi, j'étais en voiture, je l'ai vu passer au-dessus. On la voyait, il y avait les arbres qui montaient en l'air, les chaises, les tables. Mais sur 200 mètres, on les voyait. Elle est passée au-dessus de Dog. Un gros tourbillon puissant et rempli d'eau, de terre, de débris, il y avait de tout.
Cette trombe marine a marqué l'esprit de la buraliste Tina.
C'est effrayant. franchement. Hein. Ouais. Ouais, ça fait peur. C'est-à-dire, la mer a commencé à bouillonner, tout est tombé du toit, tout se promenait, les chaises. Non, mais c'était horrible.
Quoi?
Des dégâts, de l'eau avec de la terre. Donc on nettoie.
Claude est restaurateur, lui aussi a été très surpris.
Une rafale de vent et d'un seul coup on a vu les choses s'envoler. J'ai mes chaises qui ont atterri là-bas contre et on se demandait ce qui se passait.
Okay.
Et d'un seul coup on a eu une inondation à l'intérieur du restaurant.
Ça s'est passé très vite, vous dites?
Très 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 vite. Ça s'est passé en espace de même pas une minute.
Des dégâts
Nous avons eu des dégâts, oui, en cuisine et puis dans la salle.
Les commerçants de Toga ont commencé le nettoyage. Ce soir, inquiets tout de même de voir le vent et les nuages perdurer.
Oui, ce soir, les orages risquent de s'étendre vers la Corse du Sud. À Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, 2500 vacanciers ont été évacués de leur camping. Là, c'est à cause des feux de forêt attisés par le vent. Une cinquantaine d'hectares de broussailles sont partis en fumée. 250 hectares un peu plus au nord, dans l'Aude. Une collision à un passage à niveau a fait 4 morts ce matin à Avenay-Val-d'Or. C'est à 30 km de Reims. Les victimes sont une assistante maternelle et les 3 enfants à bord de sa voiture, sa propre fille de 10 ans et 2 autres enfants de 3 et 1 an. 4 passagers du TER qui reliait Épernay à Reims ont été légèrement blessés. Le conducteur est extrêmement choqué. Les barrières du passage à niveau étaient baissées, l'une d'elles pliée. Pour autant, le directeur de SNCF Réseau n'a pas voulu s'avancer sur les causes du drame. Patrick Jantet est surtout venu témoigner sa compassion aux familles touchées.
Mes premières pensées, c'est les pensées de compassion pour les familles des victimes. Événement terrible, et donc dans cet événement terrible, il m'a paru important que la SNCF porte témoignage de ce moment difficile que certains de nos concitoyens vivent aujourd'hui. Ce passage à niveau, d'abord, n'est pas un passage à niveau qui est classé dans la liste des passages à niveau sensibles. La barrière est pliée, donc les enquêteurs nous diront pourquoi elle a été pliée. Évidemment, on va regarder tous les éléments de ce genre d'accident et déterminera les causes de l'accident. Donc laissons les enquêteurs réaliser leur travail pour savoir exactement ce qui s'est passé.
Patrick Jantet, directeur de SNCF Réseau, au micro de Raphaël Kahn de France Bleu Champagne. La perspective d'un procès pénal du drame de l'amiante s'éloigne encore un peu plus, c'était attendu. Les juges d'instruction parisiens ont rendu un non-lieu dans le dossier de l'entreprise Eternit, qui fut le premier producteur français d'amiante et contre lequel une plainte, la première du genre, avait été déposée en 1996. Cela n'arrive que tous les 10 ans, une nouvelle génération de réseaux mobiles est annoncée pour 2020. Ce sera donc la 5G. Les opérateurs internet et de téléphonie vont devoir acquérir des licences. Le régulateur des télécoms, l'ARCEP, a dévoilé aujourd'hui le cahier des charges. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
L'objectif est d'aller vite.
Oui, de la 5G dès l'an prochain donc, avec la promesse du très haut débit sur nos téléphones portables dans un premier temps, dans une dizaine de grandes villes françaises en 2020, puis la promesse d'une révolution industrielle annoncée, celle des objets connectés à venir grâce à la 5G, explique Sébastien Soriano, président de l'ARCEP.
Alors la 5G, ça va permettre de multiplier la capacité d'Internet, hein, le débit disponible, ça va le multiplier environ par 5 ou par 10 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur de la 4G. Dans un deuxième temps, donc à partir de 2023-2024, la 5G va accompagner la révolution de ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire que tout va devenir connecté, de plus en plus de choses vont devenir connectées, donc transformer tout un tas de secteurs de l'économie extrêmement innovants dans les prochaines années.
Mais ces nouvelles technologies et inventions qui utiliseront dans le futur la 5G, comme la voiture autonome, ne sont pas encore sur le marché, répondent les opérateurs plutôt inquiets devant le calendrier. Au pas de charge qui leur est imposé, 3000 sites 5G d'ici 2024, alors que les objets connectés n'arriveront pas avant l'horizon 2025-2030, explique Julien Huvet, spécialiste télécom au cabinet Mazars.
Investir trop vite partout n'est pas forcément économiquement une bonne opération pour les opérateurs, parce qu'ils ne seront pas en mesure de monétiser rapidement ces investissements-là. C'est-à-dire que si vous investissez trop tôt, et que les usages, eux, ne sont pas au rendez-vous, ben vous n'aurez pas la capacité de monétiser correctement les services que vous octroyez via la 5G.
Une couverture complète de l'ensemble du territoire français en 5G dans toutes les zones, y compris rurales, n'est pas attendue avant 2030. Les utilisateurs attendent surtout l'arrivée de la fibre et la fin des zones blanches en 2022, bien avant la 5G, estiment les opérateurs.
Merci Laurent Kramer. Chez Amazon, c'était le Prime Day, jour de solde sur le site de vente en ligne. nous aussi, nous voulons notre prime, réclament les syndicats aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe. Des salariés ont débrayé à Levain-Planck dans les Hauts-de-France. Amazon annonce de son côté la création d'un millier d'emplois en Pologne. À Hong Kong, la crise politique a connu hier un nouvel épisode spectaculaire avec des affrontements entre manifestants et policiers dans un centre commercial. Depuis le 9 juin, l'ancienne colonie britannique est secouée par une vague de contestations, motivée d'abord par le projet d'autoriser les extraditions vers la Chine, puis plus largement pour défendre les libertés. L'épisode le plus marquant reste l'occupation du Parlement le soir du 1er juillet. Des militants en avaient forcé les portes, tous masqués, sauf Brian Leung, 25 ans, qui a pris la parole à visage découvert et qui se cache désormais par peur de la répression. Notre correspondante Florence de Changy a pu lui parler via une messagerie cryptée. Brian Leung a étudié les sciences politiques aux États-Unis et pendant quelques mois à Paris, il rentrait tout juste à Hong Kong quand le mouvement a démarré.
Alors qu'il avait participé au mouvement des parapluies de 2014, la première surprise de Brian Leung en revenant à Hong Kong mi-juin fut le style organique et sans chef des jeunes participants au nouveau mouvement.
J'ai été extrêmement impressionné. Ils sont très créatifs et très bien coordonnés. Ils sont intelligents, très souples, ils s'adaptent. Je me suis dit, waouh, ils sont tellement plus au point que nous quand nous étions dans la rue.
Une fois les accès au Parlement ouverts, il rejoint le camp des acteurs du mouvement. Et après quelques heures d'occupation désordonnée et chaotique du Parlement, Brian Leung ressent l'urgence d'expliquer ce coup de force.
Les gens entrent et sortent de la chambre et le temps presse. Nous avons entendu dire que la police allait arriver. Il faut absolument que quelqu'un dise explicitement pourquoi nous avons fait cela. En gros, je me suis levé, j'ai enlevé mon masque et j'ai prononcé un discours. Et chaque mot prononcé venait du fond de mon cœur.
Brian Leung se dit fier de ce mouvement pour la démocratie à Hong Kong et fier d'avoir aidé à ce qu'il soit mieux compris à Hong Kong et dans le reste du monde. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
Le journal du Tour de France, une victoire d'étape pour le Belge Wout Van Aert, un maillot jaune qui reste sur les épaules de Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot qui perd sa troisième place sur le podium provisoire. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir.
La dixième étape du Tour a été riche en rebondissements dans les derniers kilomètres entre Saint-Flour et Albi.
200 mètres de l'arrivée pour le groupe des poursuivants avec Thibaut Pinot.
Il est passé de la troisième place du classement provisoire devant tous les favoris à la onzième, étincelant depuis le début de ce Tour de France et proche de la victoire à Saint-Etienne. Thibaut Pinot est brutalement revenu à l'ordinaire sur les routes du Tour de France. C'est avec 1 minute 40 de retard sur le groupe maillot jaune réglé au sprint par le Belge Wout Van Aert qui a signé son premier succès sur le Tour que Thibaut Pinot a franchi la ligne plus qu'amère.
Qu'est-ce que je dis ? Rien à dire, c'est une journée de merde et puis c'est comme ça quoi.
Le franc-comtois s'est retrouvé piégé à 38 km de l'arrivée avec d'autres prétendants au podium. Porte, Fulsang, Uran, suite à un coup de bordure, une triple cassure provoquée par le vent, conjuguée à l'accélération du maillot jaune et de ses coéquipiers soutenus par les coureurs de la formation Ineos. Le français est revenu à 13 secondes du groupe de tête dans un premier temps à 10 km de l'arrivée avant de craquer et de perdre beaucoup de temps. Philippe Mauduit, directeur sportif de Groupama FDJ.
Ah, c'est pas la catastrophe, c'est le sport, ça fait partie du cyclisme. On n'a pas été présent au moment où il fallait. Maintenant, c'est comme ça. Il y a des mouvements dans le peloton qui font qu'à certains moments, on se perd un peu et aujourd'hui, on passe à côté.
Les supporters de Thibaut Pinot, présents sur la ligne, avaient eux aussi la tête des mauvais jours, à l'image de Mathieu, quelque peu dépité.
Nous, on avait passé bien, mais une minute après les autres. Hein. J'étais un peu marqué à visage, je pense. C'est dommage de perdre du temps sur une table comme ça. C'est vraiment rageant. La seule période de tour, disons qu'il y a des faits de course, qu'il faut être là au bon moment. On s'emballe un peu, peut-être un petit peu trop déjà, et après, ils ne sont jamais placés comme il faut. On critique les équipes comme Ineos, mais ils sont toujours là au bon moment, et font toujours le taf comme il faut, et voilà.
Un coup terrible porté au moral de l'équipe française qui était en position idéale pour tenter de gagner le Tour de France pour la première fois depuis 34 ans, Sarah.
Groupama FDJ qui pleure, le maillot jaune et les Britanniques d'Ineos qui rigolent.
Oui, Julien Alaphilippe, le maillot jaune a lui-même accéléré pour créer l'une des cassures dans le final de cette étape, juste avant que les échappés du jour soient repris. Julien Alaphilippe.
On s'attendait à une étape comme ça. On savait aussi qu'il y avait des risques de bordure, donc c'est ce qui s'est passé. Et finalement, c'était une belle journée pour nous. On arrive tous devant et malheureusement, voilà, on ne gagne pas l'étape avec Elia qui échoue de peu, mais c'est comme ça. Non, je pense qu'on a vraiment fait un très bon travail. Et, voilà, la journée de repos, ça va être important. Ouais.
Au classement général, Julien Alaphilippe est maintenant en tête devant deux coureurs d'Ineos, le vainqueur sortant Geraint Thomas à 1 minute 12, son coéquipier colombien Bernal, troisième à 1 minute 16. Il fallait tout simplement être concentré aujourd'hui, rien de plus pour Nicolas Portal, directeur sportif d'Ineos.
Le sentiment qu'on a, c'est que oui, on a le sourire, on est content, parce que là, c'est vraiment cadeau. Quoi. C'est cadeau, c'est pas un truc où il fallait monter une bosse ou un chrono, c'est cadeau et ça fait vraiment du bien. Quoi. C'est juste, c'est rien de physique, quoi. C'est un peu de la concentration tout simplement, et ça, les gars vont être super contents, c'est sûr. Hein.
En difficulté depuis le début de ce Tour de France, Romain Bardet a cette fois terminé avec le groupe de tête. Il est maintenant 15e à 3 minutes 30 du maillot jaune.
Moi, c'est vrai que j'étais beaucoup plus relax maintenant que j'ai plus d'entrée au général. L'équipe est restée super filée et on est resté calme. On a moins bien placé les favoris au départ, donc j'ai juste assumé le mouvement et c'est vrai que ceux qui les tapent comme ça peuvent faire des gros écarts.
Le champion de France, Warren Barguil, au cœur d'une polémique. Le coureur d'Arkea a provoqué la chute de l'Espagnol Mikel Landa à pleine vitesse. Le Français dit avoir lui-même failli chuter et parle de gestes involontaires. Demain, le peloton profite d'une première journée de repos bien méritée entre Albi et Castres.
Merci Fabrice Rigobert. Et ensuite, direction Toulouse avant d'attaquer les Pyrénées.
La météo avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Et avec vous Sébastien Léas, une soirée et un début de nuit perturbés en Corse.
Oui, Météo France maintient la Corse en vigilance orange aux orages et aux fortes pluies. On a déjà eu des cumuls localement abondants et des trombes marines évoluant en tornades ont aussi été observées. Et puis ces averses et ces orages vont continuer d'arroser la Corse jusqu'en début de nuit, avant un retour progressif au calme par le nord. La vigilance orange devrait être levée à 23h. Quelques averses résiduelles se feront encore remarquer en seconde partie de nuit sur l'est. Mais dès demain matin, le soleil viendra s'installer durablement sur la Corse.
Et la journée sera ensoleillée aussi sur le reste du pays.
Oui, du soleil pour tout le monde pour demain. En début de journée, il faudra quand même composer avec quelques grisailles matinales sous forme de nuages bas et de bancs de brouillard qui toucheront le Nord-Pas-de-Calais, le Pays Basque et également entre la côte de Granit-Rose et la baie de Saint-Malo. Le ciel sera tout de même un peu voilé par moment, mais sans inverser la tendance ensoleillée. Ce voile nuageux glissera de la Normandie au nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Auvergne, au bassin parisien et aux frontières belges le matin. L'après-midi, ce sont les régions allant de la Provence-Alpes-Côte d'Azur à Rhône-Alpes et au Grand Est qui seront concernées par ce voile. Et puis avec ce soleil généreux, les températures seront bien estivales. 25 degrés à Amiens et à Lille, 26 degrés à Rouen et Brest, 28 degrés pour Paris, Mulhouse et Bastia, 30 degrés à Nantes, Cognac et à Lyon, 31 à Marseille et à Toulouse et même 34 degrés à Gignac dans l'Hérault.